Nous sommes le 25 novembre, journée internationale et nationale contre la violence faite aux femmes. Alors cette violence qui malheureusement est récurrente, il faut chacun dans notre coin, les professionnels, les associations, il faut tous qu'on puisse œuvrer pour qu'à terme cette violence soit éliminée. Alors le rôle des centres d'information, c'est justement d'accueillir, d'informer, de soutenir et d'accompagner les femmes victimes de cette violence. En 2010, pour vous donner une idée, nos 9 centres ont reçu 5826 demandes d'information concernant directement les violences faites aux femmes et accueilli de manière physique 1412 femmes victimes directement de ces violences, qui peuvent être physiques, psychologiques, économiques, un mélange de l'ensemble. Bon, ça couvre, le terme violence couvre quand même un champ très large, comme je pense vous en doutez. Alors les CDFF, donc au-delà de leur rôle d'information, orientation et accompagnement, mettre en place aussi des actions spécifiques comme des entretiens avec des psychologues, comme des groupes de parole où la parole de la victime peut être libérée, accueillie, et où l'écoute se fait dans un contexte qui est vraiment sécurisé, je pense, et entouré de professionnels qui essaye et aide à cette libération de la parole. Bon, nous ne prétendons pas, seuls dans notre coin, pouvoir régler ce problème. C'est un travail de très très longue haleine, c'est un problème qui existe depuis des millénaires, et ça existera toujours tant que nos sociétés restent ancrées dans ce qui est quand même l'idée de la domination d'un genre sur l'autre. Tant qu'il n'y a pas une réelle égalité entre les gens, je pense qu'on n'arrivera pas au bout de ce fléau. Alors pour illustrer un peu comment ça peut se passer, nous allons pouvoir voir un film qui s'appelle Darling, de Christine Carrère, et qui va relater l'histoire d'une jeune femme issue d'un milieu agricole, et elle a vraiment envie de s'en sortir de ce milieu qui est quand même teinté aussi de violence, et qui dans son cheminement, vous verrez, elle rencontre quelqu'un et elle va elle-même donc subir ces problèmes de violence.
La présidente du CIDFF d'Arras, Teresa Aymar, vient de nous rappeler le but de cette journée et aussi les actions menées pour faire de ce 25 novembre une date exemplaire dans cette lutte des violences faites aux femmes. L'Union régionale des CIDFF a donc envoyé ses troupes à Arras pour organiser une journée d'échange par le biais de tables rondes autour de plusieurs thématiques et un ciné-débat au Cinémovida avec la projection du film Darling de Christine Carrière. Darling raconte l'histoire de Catherine, incarnée par Océane Decaudin, enfant, puis par Marina Foïs, adulte. Catherine est une enfant non désirée, maudite par sa mère, avant même sa naissance. Et c'est le point de départ d'un parcours semé de plusieurs embûches et de coups. D'abord, coup du sort, la mort de ses deux frères aînés, et puis d'autres coups, ceux de son père. Viendront ensuite ceux du mari, blessures physiques et amorales, traitements humiliants et inhumains. Catherine, alias Darling, qui est le pseudo qu'elle emploie pour converser avec des routiers via la CB, ne s'apitoie pas sur son sort et au contraire, son parcours, son histoire témoigne d'une rage de vivre envers et contre tout. Elle se bat pour exister et si elle tombe, elle se relève. Évidemment, le film a fait mouche auprès du public venu nombreux et le débat qui a suivi la projection a soulevé quelques questions pertinentes. À cette occasion, j'ai rencontré Teresa Aymar pour nous parler de cette journée, des différents acteurs professionnels qui y ont participé et elle nous explique d'abord ce qui a déterminé le choix de ce film.
L'actualité concernant la violence faite aux femmes, qui est très bien illustrée par ce film. Et le fait que, bon, c'est un film relativement récent, donc
Il y avait déjà en place des possibilités, je dirais, qui, malheureusement, on a bien vu dans le film, n'ont pas été mobilisées. Les moyens d'aide qui n'ont pas, de soutien qui n'ont pas été mobilisés comme ils devaient l'être.
Est-ce que vous pourriez me parler un peu des tables rondes? Qu'est-ce qui s'est dit? Alors, comment ça s'est organisé? Qu'est-ce qui ressort de tout ça?
Alors, en fait, l'objectif de un des objectifs de cette journée, c'était de nous familiariser davantage avec la mise en œuvre des outils juridiques qui sont prévus dans la loi du 9 juillet 2010. Et dont un élément qui s'appelle l'ordonnance de protection, hein, qui est une possibilité pour protéger la victime, la femme victime de violence. Et on avait beaucoup d'espoir dans cette ordonnance de protection parce que ça permettait dans notre esprit, hein, d'éloigner les dangers au moins le temps que la personne puisse s'organiser. Et il s'avère beaucoup plus compliqué pour mettre en œuvre que moi personnellement je l'avais envisagé, parce que même si c'est une démarche civile, ça implique un lien avec le pénal, puisque l'auteur, on ne peut pas juste faire une ordonnance de protection sans savoir, sans l'aspect de débat contradictoire avec l'auteur qui doit pouvoir se défendre. Donc il y a forcément du temps nécessaire pour établir les faits. Il y a un travail énorme pour la constitution du dossier avec les preuves que porte la femme victime. Bon, si c'est des violences physiques, c'est bon, plus évidente, plus explicite que lorsque c'est des violences psychologiques. Donc, complexité dans la construction de dossiers et présentation devant le juge, parfois de dossiers déboutés, puisque les preuves ne sont pas suffisantes. Donc, en fait, il s'avère être un outil nouveau qui peut être utile, mais à manier avec précaution et surtout de maintenir et d'utiliser tous les autres outils qui existent déjà. Et je pense à, ici, sur notre territoire, on a la chance qu'il y ait une politique très, très affichée et très réelle d'éloignement de l'auteur. Immédiate, de garde à vue s'il y a des faits avérés, réels, urgence, garde à vue avec déferrement immédiat si les faits sont avérés, avec s'il y a des problèmes qui sont plutôt passagers selon la gravité des faits, rappel à la loi ou judiciarisation de l'affaire quand c'est plus grave. Mais en tout cas, il y a des structures aussi, notamment l'Homme des Rosati qui est là pour accueillir des auteurs des violences et qui permettent d'éloigner rapidement, je dirais, l'auteur et de le prendre en charge également. Bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des difficultés pour le maintien de l'Homme des Rosati, mais donc je pense que pour les femmes victimes, c'est une mauvaise nouvelle. Ceci dit, il y a d'autres éléments qui restent d'actualité, donc la possibilité d'éloigner l'auteur, de l'empêcher d'approcher la victime et de mettre en œuvre rapidement une procédure judiciaire pour protéger la femme victime. D'autre part, on a parlé de ce qui existe dans le Pas-de-Calais, qui n'existe pas encore dans le Nord. C'est un accord, une convention signée avec la délégation départementale de la prévention de la sécurité, avec les partenaires, que ce soit les gendarmes, les policiers, que ce soit aussi les acteurs associatifs comme le CIDFF, la VIGE, pour aider les victimes. Donc pour l'accueil de la parole de la victime, il y a des commissariats qui ont embauché des travailleurs sociaux à temps partiel ou à temps plein, des psychologues. Il y a des permanences du CIDFF dans certains commissariats dans le Pas-de-Calais et un lien très étroit entre le bureau d'accueil des plaintes et les structures comme le CIDFF qui sont mises en lien. Fait que les victimes, les femmes victimes de violence, on peut les mettre très vite en lien à travers une procédure qui a été construite et mise en œuvre par les différentes associations et la police au niveau départemental. troisième chose, c'est la protection des enfants. Donc c'est la dimension de la prise en compte de la répercussion qu'a la violence sur la femme sur les enfants. Et comment on peut essayer de mieux les protéger avec des mesures donc de... c'est toujours compliqué avec des enfants, mais comment il peut y avoir signalement quand il y a vraiment un danger réel des répercussions de cette violence. Mais en tout cas, comment les conseils généraux du Nord et de Pas-de-Calais gèrent la situation, gèrent les signalements d'enfants en danger par rapport à la problématique de la violence faite aux femmes. Donc ça aussi, c'est quelque chose de relativement récent. Enfin, la prise de conscience de la réalité du danger par rapport aux enfants qui sont témoins ou même parfois même directement victimes de cette violence.
J'allais vous demander si vous intervenez également dans les collèges, les lycées.
Alors, c'est le travail que nous sommes en train de préparer actuellement avec le rectorat, l'inspection académique. Nous sommes formés à des interventions au niveau scolaire. Ça se fait déjà dans certaines parties du Pas-de-Calais. Béthune intervient déjà. Nous, on est déjà intervenu à plusieurs reprises sur des présentations de problématiques, sur les débats. L'année prochaine, on va fêter les 20 ans du CIDFF, et à ce moment-là, on a sollicité le concours d'un troupe de théâtre pour aller dans les établissements scolaires, justement, et travailler autour de cette problématique de violence faite aux femmes.
Docteur Lemaire à l'appareil, je vous rappelle au sujet de la jeune femme que vous m'avez amenée ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'elle est passée dans un broyeur. C'est plus une femme à l'intérieur, c'est du steak haché.
Mon nom est Catherine Nicole, mais je préfère qu'on m'appelle Darling. Là, c'est moi à 9 ans. C'est vrai que partout où je suis passée, ça a été la merde. Par exemple, la première fois où je suis allée à la messe, le curé est mort pendant le sermon.
Je te dis que c'est vrai, quand le curé, ma vie est mort.
C'est de la sorcellerie.
Je préfère aller travailler plutôt que de rester chez vous. Je serai pas paysante. Je serai pas paysante.
C'est peut-être ce jour-là que j'ai commencé à mieux entendre le bourdonnement de la nationale.
Moi, je me marierai avec un routier. J'aime que les routiers. C'est ça ou rien du tout.
Quand tu veux lancer un appel, tu te lances sur le 19 ou sur le 27. Tu dis, attention les stations, est-ce qu'il y a quelqu'un en fréquence pour Darling 5-0?
On peut vraiment faire des rencontres avec ça?
Oui, moi j'ai rencontré mon mari.
Il y a quelqu'un en fréquence pour Roméo 1.4? Est-ce qu'il y a une YL dans cette zone là, qui veut rencontrer l'amour, le vrai?
Oui, moi.
Comment tu t'appelles? Ton vrai nom, Roméo?
Joël Épine, j'ai 24 ans.
On rigolait bien au début.
Et puis depuis quand tu prends des décisions sans m'en parler, toi?
Si vous voulez qu'on avance ensemble, va falloir tout me dire. Me sortir la vraie vérité.
Impossible à dire la vérité. Si j'enlève la broderie, il reste que la merde. Et la merde, ça n'intéresse personne. Les gens, ce qu'ils veulent tous, c'est des belles histoires avec des gens beaux. La merde des inconnus, tout le monde s'en fout.
Après la projection, j'ai demandé à deux spectatrices assez bouleversées ce qu'elles avaient pensé du film.
Et ben c'est un film choc, on a du mal émotionnellement à pouvoir réagir après un film comme celui-là. Maintenant, les débats après étaient quand même riches et le fait de voir le point de vue de la psychologue, de la juriste, de travailleurs sociaux qui ont vécu le film différemment, ça permet d'enrichir notre pratique et puis notre vision de la violence.
J'ai trouvé ce film oppressant. J'ai l'impression que cette femme subit beaucoup, qu'elle a du mal à remonter la pente, à pouvoir s'en sortir, parce qu'elle a peu de personnes qui peuvent l'aider à se hisser vers le haut. Déjà, ben, depuis l'enfance, hein, je crois que sans amour, on peut pas construire une confiance en soi qui permet de s'autonomiser, d'aller de l'avant.
Bah, c'est vrai que le fait que la mère, d'emblée, dès sa naissance, lui dise qu'elle ne l'aime pas, qu'elle ne vaut rien, qu'elle est grosse, moche, ça ne l'aide pas à elle se dire « voilà, je vaux quelque chose et j'ai le droit d'être aimée ». Donc si, ça lui donne un comportement comme quoi, ben voilà, même si elle reçoit à chaque fois des coups, des choses difficiles de la vie, elle les mérite et elle ne mérite pas d'avoir des choses bien qui lui arrivent.
La mère est négative, hein, elle est rarement positive envers sa fille et je trouve que la fille a parfois quand même du punch pour les affronter ses parents. Hein.
Le punch qu'elle a perdu d'ailleurs après, justement, quand elle trouve son mari, là on pensait avoir une femme forte, on avait une petite fille très très forte, et puis finalement, c'est l'écroulement total.
Oui, parce qu'elle l'aime, d'une certaine façon, elle veut le garder.
En fait, c'est ce qu'il représentait qu'elle aime, hein. C'est le fait qu'il était routier, que...
C'est trop charmant, quoi.
Voilà, c'était son rêve. Et le fait que le rêve devient un cauchemar, c'est comme si une deuxième fois on lui disait « tu ne mérites que d'avoir du mal dans ta vie », quoi. Et du coup, elle a perdu ce punch parce que c'est comme si pour elle, c'était une fatalité de subir et d'être malheureuse. D'ailleurs, elle l'explique, hein, le pire de ce qu'elle a pu vivre, c'est le regard de ses enfants. Et je pense que c'est l'horreur de ce qu'elle l'a vécu, c'est le regard de ses enfants qui lui ont renvoyé, quoi. Et la seule façon qu'elle a trouvé de les protéger, c'était de partir pour qu'ils ne voient plus cette horreur. Et malheureusement, il n'y a pas eu les relais autour pour permettre de rebondir et de recréer quelque chose, quoi.
Beaucoup de professionnels étaient présents lors de cette journée, psychologues, juristes, délégués et médiateurs. Colette, médiatrice du CIDFF dans le Nord, nous éclaire sur les différentes alternatives qu'elle propose afin de mieux appréhender des situations délicates et aussi de mieux les comprendre.
Je suis Colette Poubeault, je suis médiatrice familiale au CIDF de Roubaix-Tourcoing et co-animatrice d'un groupe de parole pour femmes victimes de violences conjugales.
Alors qu'est-ce qui s'y passe justement à ces cours de parole ?
Avant le groupe de parole, on va recevoir les personnes. On va voir si elles sont prêtes. Déjà, elles vont nous raconter un premier jet de leur histoire. On va leur donner enfin un espace-temps pour parler de leur souffrance. Et parfois, on est surpris de ce qui sort. Moi, ça fait des années que j'écoute des gens en souffrance. Je peux dire qu'on n'est jamais au bout. Et le film qu'on vient de voir, Darlene, nous a montré une tranche de vie de souffrance énorme qu'il faut voir et il faut surtout se dire « plus jamais ça ». Ce qui me paraît important dans un groupe de parole, c'est le fait qu'il y aura 6 filles, 6 femmes qui ont des histoires de vie différentes, de milieux socio-professionnels, d'âge, de culture. Tout est différent peut-être, sauf une chose, la violence subie. Qu'elle soit physique, psychologique, affective, sexuelle, au travers des enfants. Tout cela, ça va... C'est leur point commun. Et à partir de là, elles vont avoir la capacité de dire l'horreur et d'avoir envie d'en sortir. Donc notre groupe de parole n'est pas animé par des psychologues, mais on s'est formé à l'écoute, bien sûr. Et on a pour but de, sur 10 séances de 2 heures, d'aider à faire un peu le tour de quelques sujets. Ce n'est pas exhaustif et la plupart du temps, les femmes nous disent encore, mais on veut vraiment c'est aborder ce qu'est la loi, ce que dit la loi sur les violences, le cycle des violences, également tout ce qui est du domaine de c'est pas juste. Tu as le droit de te mettre en colère, c'est pas normal, etc. Et puis on va travailler sur leur capacité à décoller, j'aime bien la poubelle et la décolleuse, à décoller ce qui leur a été collé dessus. Et un des mots qui est le plus revenu au dernier groupe, c'est « grosse vache ». Alors on a décollé les grosses vaches et on les a mises dans la poubelle. Et lors d'un groupe, une femme a dit « Colette, est-ce que j'ai le droit de taper dans la poubelle et de marcher dedans ?» Et elle a marché dedans, elle a dansé dedans et je crois qu'elle a réussi quelque chose là de merveilleux. On va aborder la résilience, on va aborder les limites, on va aborder plein de choses. L'essentiel, c'est qu'elles aient un endroit où elles se rencontrent, où elles s'approprient enfin le droit d'être elles-mêmes et aussi après de pouvoir aider d'autres et de s'entraider elles-mêmes. Parce que c'est aussi ça un groupe de parole, c'est un lieu où on va s'entraider, où on va aller téléphoner quand on ne va pas bien et dire « j'ai pas bien, est-ce que tu peux ?» Et puis à 10h du soir, il y en a qui se sont appelées, elles ont fait une pizza ensemble, d'autres ont fait un jacuzzi ensemble, voilà, pour retrouver l'image de leur corps. Leur corps maltraité, ben, elles le reprenaient en main. C'était à nouveau leur corps et leur corps aimable.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a un schéma, on va dire un cheminement, si on peut appeler ça comme ça, classique pour la dégringolade, pour ces femmes qui sont victimes de violences conjugales ou même autres familiales? Ou alors est-ce qu'il y a vraiment des cas à part et tous les cas sont complètement différents?
Je pense qu'il ne faut surtout pas faire de généralité. Il y a des femmes qui vont être violentées dans les milieux médicaux et puis les hommes feront en sorte que ça ne se voit pas. D'autres le seront dans les milieux sociaux défavorisés, d'autres chez les professeurs, chez les juges, etc., les professeurs. Non, il y en a partout. La violence n'exclut personne. Mais elle est peut-être plus facile dans des situations, malheureusement, de crise et de précarité. Et ce n'est pas toujours le cas. Je dois dire qu'on peut trouver dans des familles de grande précarité un amour familial et filial qui pourrait en rebattre pas mal.